journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Objectif, ne prendre surtout aucun risque. Elisabeth Borne refuse de se soumettre au vote de confiance des députés et des sénateurs à l'issue de son discours de politique générale prévu demain devant les deux assemblées. La première ministre qui ne dispose pas d'une majorité absolue. Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Jacques, la situation est délicate pour Elisabeth Borne. Son nouveau gouvernement subit beaucoup de critiques. Elle n'est pas parvenue à élargir son socle d'élus. La première ministre est obligée de jouer la prudence.
Oui, ces derniers jours, les conseillers de l'Élysée et de Matignon ont multiplié les coups de fil, appel aux députés socialistes, tendance gauche modérée, SMS à plusieurs parlementaires des Républicains, pas fermés au dialogue. Beaucoup de députés nous ont dit « on verra », explique un ministre qui a lui-même décroché son téléphone pour prendre le pouls de l'hémicycle. Après un week-end de tractation, le compte n'y était tout simplement pas et il y était encore moins une fois la composition du nouveau gouvernement connue. 11 députés de la majorité nommés ministres, autant de voix en moins dans l'hémicycle puisque leurs suppléants n'auront pas encore récupéré leur siège. Conséquence, se soumettre à la confiance des députés relevait de l'aventure hasardeuse. Il y avait un risque, confesse un ministre de poids, c'est que le RN nous piège. Imaginez un seul instant qu'Elisabeth Borne obtienne sur le fil la confiance de la représentation nationale grâce à l'abstention de l'extrême droite, interroge ce même membre du gouvernement. Une situation qui aurait été pour le moins complexe à assumer pour une première ministre issue des rangs de la gauche.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Alors pendant ce temps, les nouveaux ministres du gouvernement Borne 2 prennent leur marque. Certains étaient déjà des fidèles du président de la République.
Et à l'instar de François Braun, remplaçant de Brigitte Bourguignon à la Santé, le 31 mai dernier, c'est à lui qu'Emmanuel Macron avait confié la mission flash sur l'état des urgences à l'hôpital. 41 recommandations que cet urgentiste de 59 ans pourra mettre en œuvre lui-même en tant que ministre. Alors les soignants sont-ils convaincus par cette nomination? Notre correspondant Benjamin Péter a posé la question au personnel des urgences de Toulouse dont la grève s'achève à l'instant. Reportage.
C'est le cinquième lundi d'affilée qu'ils sont en grève pour demander plus de personnel. Alors pour Mathieu Félix, qui est manipulateur radio aux urgences et délégué CGT, la nomination de François Braun ne changera pas grand-chose.
On ne peut pas s'offusquer aujourd'hui de voir la situation quand on l'a créée soi-même en réalité, puisque les fermetures de lits, les fermetures de postes, bah, Monsieur Braun, j'imagine qu'il est chef de service et qu'il a validé ses politiques d'austérité dans les hôpitaux qui ont amené à la situation qu'on connaît aujourd'hui.
Mais pour Gilles Poulaillon, qui est infirmier aux urgences du CHU de Purpan, le fait que le ministre soit un urgentiste peut lui permettre d'être plus efficace. Pour lui qui fait grève pour la première fois en 8 ans, il faut répondre très vite au malaise des soignants.
Sur le papier, je trouve ça très bien. Maintenant, M. Véran était neurologue, ça n'a pas réglé tous les problèmes de la neurologie, mais attendons de voir. Quoi. Nous, on ne demande pas des augmentations de salaire, on demande des besoins humains en plus. Quoi. Et ça, il faut y répondre maintenant. L'exercice de notre métier devient dangereux. Moi, quand je m'occupe de 25 patients, je suis incapable de dire le nombre des personnes et encore moins les pathologies pour lesquelles ils sont aux urgences et encore moins quels soins je dois leur faire. Quoi.
Et tous sont conscients qu'il faudra malgré tout du temps, notamment pour responsabiliser la population. Alors que près de 40% des patients qui se présentent ne relèvent pas des urgences et pourraient être pris en charge par un médecin de ville. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Europe 1, il est 8h05, un déjeuner en terrasse, au soleil, pour le client, c'est un petit bonheur. Pour bon nombre de restaurateurs, en revanche, c'est un casse-tête.
Hein. Eh oui, car il manque de personnel, 150 000 postes toujours vacants alors que l'été est déjà là. Une solution, recruter peut-être 4 000 saisonniers en Tunisie. L'UMI, syndicat français des métiers de l'hôtellerie-restauration, a signé un accord en ce sens avec son homologue tunisien. Partenariat qui pourrait être renouvelé chaque année au grand dam des restaurateurs tunisiens. Le reportage de notre envoyé spécial près de Tunis, Thibaut Hu.
Sur une terrasse discrète à l'ombre des palmiers, 6 tables noires longent une baie vitrée. Dans ce restaurant italien de La Marsa, une ville à 15 km de la capitale, Youssef, serveur, tient son plateau à deux mains. Il n'a pas encore candidaté au poste de saisonnier ouvert par la France, mais il compte bien partir bientôt.
Ici, je n'ai pas assez d'argent pour vivre. Il y a des amis, il est parti en France, il m'a dit qu'un seul jour, tu prends 150 euros.
Avec un salaire de 700 dinars hors pourboire, soit 218 euros par mois, à peine de quoi vivre, il rêve de décrocher l'un des CDD de 5 mois, tout comme Skender, le pizzaïolo qui vise en plus un meilleur poste.
En Tunisie, tu prends le BTS, tu restes commis. En France, tu prends le BTS, junior sous-chef.
Alors le patron, Assis Galadou, qui a déjà perdu perdu un mètre de salle parti en France, est très inquiet pour son restaurant. Il dénonce une concurrence déloyale.
On va se retrouver donc sans employés. Donc après la corona, on a passé 2 ans pratiquement donc sans tourisme, sans hôtellerie, pratiquement donc après la reprise, donc la France annonce cette nouvelle qui est pour moi vraiment elle est catastrophique.
Alors pour faire face, le restaurateur tente d'augmenter les salaires dans la mesure de ses moyens, d'environ 20 € par mois, mais il sait que certains de ses employés tunisiens se laisseront tenter par le niveau des salaires français. À la Marsa, près de Tunis, Thibault, Europe 1.
Direction maintenant les États-Unis. Pas d'avortement pour une petite fille de 10 ans tombée enceinte après un viol.
Dans l'état de l'Ohio où elle habite, l'IVG est désormais interdite. Elle a donc dû faire des kilomètres pour se rendre dans l'état voisin et avorter. Une histoire qui alimente encore le débat entre pro et anti-IVG. Dialogue de sourds qu'on retrouve aussi devant cette clinique de Jackson, la capitale du Mississippi, où l'avortement sera interdit d'ici 2 jours. Le reportage du correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Alexis Guilleux.
Assis sur sa chaise de camping, Doug Heiser se félicite. La décision de la Cour suprême sur l'avortement est une bonne nouvelle. Mais pas question pour autant de quitter les abords de la clinique de Jackson avant la fermeture définitive. Il tient fièrement sa pancarte « Je prie pour vous ».
Il y a des bébés qui vont mourir, donc si on peut sauver un bébé, un enfant, une vie, ça vaut le coup de rester.
Chez ces anti-IVG, les références religieuses sont légion. Pour eux, il faut à tout prix protéger la vie dès la conception. Un peu plus bas dans la rue, Amanda Black, jeune femme d'une 30aine d'années, leur lance des regards noirs.
Ce sont des zélotes. Ils pensent qu'ils sauvent des gens, ils pensent que c'est de l'amour, mais ils s'en fichent de sauver des vies ou d'aider quelqu'un. Ces gens haïssent simplement les femmes et veulent contrôler leur corps.
Deux camps qui apparaissent irréconciliables, anti-IVG depuis plusieurs décennies, Barbara Beavers n'hésite pas à accuser les pro-choix de complicité de meurtre.
Pour moi, ils ont le sang d'innocents sur les mains, le sang des bébés innocents. La loi sur l'avortement était mauvaise, ça a été une erreur horrible et 63 millions d'enfants sont morts.
Pour elle, la révocation du droit à l'IVG est une immense victoire.
C'est comme la fin de l'esclavage.
C'est comme la fin de l'esclavage, explique-t-elle, une comparaison souvent utilisée par les militants anti-avortement. À quelques heures de la fermeture de la dernière clinique du Mississippi. Jackson, Alexis Guilleux, Europe 1.
Les États-Unis, par ailleurs, une fois de plus endeuillés par une fusillade hier soir à Chicago.
Au moins 6 morts, 26 blessés lors d'un défilé de la fête nationale. Le tireur, un jeune homme de 22 ans, a été interpellé.
Retour en France pour terminer ce journal à la découverte d'un trésor de la Renaissance.
De fabuleuses fresques découvertes en 2015, longtemps restées cachées sous la peinture de la cour d'honneur du palais de Monaco. Après 2 ans de fermeture, le public va enfin pouvoir les admirer. Le reportage de Frédéric Michel.
On gratte centimètre après centimètre pour dégager cette couche-là, au scalpel.
Centimètre par centimètre, il a vu les fresques se dévoiler. Chargé de la restauration du palais, Christian Gauthier a suivi les travaux depuis le premier jour.
C'est une œuvre qui se présente à nous aujourd'hui, qui fait plus de 600 mètres carrés, qui a imposé une durée de travaux énorme. Ce que vous voyez là est à peu près à 75% de la fresque originelle du XVIe siècle. Et nous nous trouvons sous la fameuse galerie où on voit le 12 travaux d'Hercule. Donc, et c'est cette voûte-là qui a été la première découverte qui a été réalisée au palais.
De la galerie d'Hercule à la salle du trône, le public peut désormais contempler ces fresques inestimables. Thomas Fouilleron, historien du palais.
On est dans un décor de la Renaissance. C'est exceptionnel aujourd'hui de découvrir une telle surface de fresques remontant au XVIe siècle. Alors évidemment, c'est une enquête policière parce que les questions qui se posent immédiatement, c'est que représente-t-on ? Qui les a peintes ? Alors on a des faisceaux évidemment de présomption.
Et le palais a encore des secrets à livrer. Une fresque intacte a été découverte en perçant un faux toit, un trésor caché à la vue de l'homme depuis plusieurs centaines d'années.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est.
Merci Fanny Marceau.